Bonjour à toutes et à tous. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, je vais reprendre la causerie sur Charlotte Perriand. Alors, je suis conscient que le sujet est sensible, il peut heurter la fibre féministe de beaucoup d'entre vous, mais me semble-t-il, ce qui est important, c'est pas forcément d'être conforme aux idées du temps, même si elles sont légitimes, mais il me paraît indispensable de rétablir la vérité historique. Alors, des artistes ont pu être oubliés dans l'histoire. Par exemple, il y a actuellement au musée des Augustins une exposition sur un peintre, Théodule Ribaud, qui mérite d'être reconnu. Bon, voilà, ça n'enlève rien à personne et il est dans la lignée de Henri de la Tour, du Caravage et ça ne change rien à l'histoire de l'architecture et au contraire, c'est tout à fait intéressant de voir des peintres un peu mineurs qui ont des qualités et qui sont montrés au public actuel. Le problème historique, c'est quand ça se fait au détriment d'autres personnes et que l'on la entre guillemets réhabilitation, il s'agit surtout de faire descendre d'autres architectes, dans le cas présent, ou d'autres artistes au bénéfice de la personne que l'on veut glorifier. Alors là, c'est un peu complexe parce que effectivement, ça peut atteindre l'imposture. Et aujourd'hui, je crois qu'on a quelque chose qui est vraiment excessif pour Charlotte Perriand, qui d'ailleurs, contrairement à ce qui est raconté, n'a jamais été oubliée. Mais si je lis ce qui est publié sur France Culture, notre chaîne officielle, nationale, culturelle sur Charlotte Perriand. Alors, je vous le lis. Charlotte Perriand, égérie visionnaire du design moderne, figure majeure du XXe siècle, Charlotte Perriand a construit des ponts entre architecture, art et design. Pionnière de l'art de vivre, elle a révolutionné l'architecture d'intérieur et élaboré des meubles directement inspirés de l'univers industriel. Pourtant, on attribue encore à Le Corbusier des pièces conçues par cet architecte résolument moderne. Alors évidemment, il y a beaucoup à dire de tout cela. Bon, je pense que tout ça est faux complètement. Et c'est quand même relativement grave d'arriver à, si vous voulez, à partir d'une tentative qui pourrait être qualifiée de sympathique, de faire ressurgir cette époque des années 30. Une période très créative et en montrant effectivement le rôle d'une femme. Ça pourrait être effectivement un projet intéressant. Dans le cas présent, on lui attribue le XXe siècle. En fin de compte, personne n'a existé à part elle. Bon, tout cela est évidemment grotesque et ridicule. Et évidemment, la dernière phrase où de Le Corbusier, c'est-à-dire que Le Corbusier est un imposteur et Charles de Perriand, et j'ai écouté des interviews qui ont été faites par des historiens, entre guillemets, la famille Perriand également. Effectivement, on essaie de montrer que Le Corbusier est un peu un faussaire, quoi. En tout cas, il aurait abusé de son rôle d'homme dans ce cas-là. Alors, si, effectivement, dans de nombreuses disciplines, et j'en ai déjà parlé, et notamment scientifiques, des femmes ont pu être oubliées, c'est certain, par les hiérarchies professionnelles, et que des grandes découvertes, je vois par exemple, on avait parlé de la NASA, on avait parlé également des GPS, et on a des personnes qui ont été effacées, et il est tout à fait intéressant, légitime, et on peut dire même c'est très important de réhabiliter et de donner à ces personnes la vraie place qu'elles méritent. Mais dans le cas présent, il faut rappeler que le métier d'architecte est un métier qui a été, on peut dire, exclusivement masculin dans l'histoire. Il y a des peintres, il y a des sculpteurs qui ont été des femmes, justement dans ces disciplines connexes. Mais effectivement, les architectes sont des hommes, et ce n'est que il y a peu que la profession s'est féminisée. On peut dire même, d'ailleurs, elle est actuellement très féminisée. Les écoles d'architecture ont une très grosse majorité de jeunes femmes. Alors, la question, ce n'était pas une domination du patriarcat par rapport à ces métiers. Il faut bien expliquer ce qu'il s'agissait. D'une part, la formation, l'enseignement, à l'inverse de métiers comme par exemple la médecine, où il y a des écoles de médecine depuis très longtemps, Montpellier, au Moyen-Âge, etc. Donc il y a les transmissions de savoir dans des matières scientifiques qui sont très anciennes. Et l'architecture, c'est un métier qui est très long à acquérir et qui était, en fait, dont l'acquisition se faisait sur les chantiers. Et on peut dire que, alors effectivement, il y avait des dynasties, mais il y avait aussi des ouvriers qui, par leur intelligence, leur maîtrise, pouvaient grimper les échelons et devenaient l'architecte en ayant franchi les différents obstacles de la formation. Alors, il faut dire que les métiers du bâtiment sont toujours des métiers pénibles, même si aujourd'hui cela n'a rien à voir avec les progrès de la mécanisation, de la réglementation, etc., par rapport à ce que c'était. Donc, s'il n'y avait pas des femmes, c'était parce qu'il s'agissait d'une formation à la dure, dans des métiers physiques, des métiers qui étaient exposés aux intempéries, avec du danger, des charges lourdes. Et effectivement, une fois que cet apprentissage était terminé, on pouvait accéder par palier au métier d'architecte. Voilà, donc il n'y a pas une grande domination du patriarcat, ça s'explique par ces raisons. Donc, pour revenir à Charlotte Perriand, le rapport d'une jeune étudiante qui est embauchée par Le Corbusier, alors la manière dont on tourne l'histoire, on dit elle a été associée à Le Corbusier. Alors il faut replacer les choses dans leur contexte. Et de dire, d'ailleurs, elle a été responsable du département mobilier de l'agence Le Corbusier. Il faut replacer tout cela dans un contexte historique, c'est que Le Corbusier, à cette époque-là, donc on est en 1927, architecte jeune, à 41 ans, on est un jeune architecte, il est, on peut dire, au tournant de sa carrière, et j'en avais déjà parlé, il est en train de travailler sur la ville de la Savoie, qui va être son œuvre majeure. Mais il est déjà un architecte très connu par ses écrits, mais il se situe on peut dire, dans une intelligentsia moderne qui tourne le dos à l'art déco, aux formes un peu, on peut dire, rococo de l'époque. Et donc, son agence est une petite agence. Il a déjà eu des difficultés parce qu'il manquait de commandes, donc il a réalisé à peine quelques maisons. On ne vit pas avec quelques maisons, même s'il s'agissait dans ce cas-là de riches mécènes éclairés qui faisaient appel à un jeune architecte, on peut dire, entre guillemets, d'avant-garde. Mais quand on dit qu'il est associé à Le Corbusier, c'est pas Foster Associates où il y a, je crois qu'il y a 500 ou 600 architectes avaient des partenaires et une structure avait des départements. Dans le cas de l'architecte britannique Foster, il y a des départements de robotique, évidemment, il y a des départements de création de mobilier, il y a des départements d'ingénierie. Bon, ce sont des grandes agences d'aujourd'hui, mais là, chez Le Corbusier, il avait une toute petite agence, il habitait au-dessus, il avait aussi son coin pour peindre, et on peut dire que c'était plutôt une atmosphère familiale, et il faut dire les choses comme elles sont, il payait très peu ces gens qui étaient ses employés, ou il ne les payait pas du tout, et d'ailleurs, on peut dire qu'on ne peut pas les plaindre, parce que les anciens collaborateurs de Le Corbusier, alors d'une part, ont pu bénéficier du gîner du maître, mais aussi ça leur a servi dans la vie, ce qui n'est que justice. Ce qui a été également le cas pour Charlotte de Perriand, et c'est très bien ainsi. Mais il faut vous dire que quand elle est associée pour faire du mobilier, c'est surtout le moyen de ne pas la payer, et parce que Le Corbusier, justement, n'a pas les moyens, donc il l'associe à la création de mobilier, mais tout en se réservant le droit d'avoir l'exclusivité du nom par rapport à la série de mobilier qui sera intitulée Elle le sait, dont j'ai parlé dans l'émission précédente. Alors, l'histoire, effectivement, aujourd'hui, on essaie de la réinventer. Le texte que je viens de vous lire de France Culture, évidemment, est complètement délirant. Les propos aujourd'hui par rapport à cela, donc on peut dire que Charlotte de Perriand a eu un rôle, et je vais y revenir, mais c'est assez curieux parce que ce féminisme, qui est, on peut dire, avec Laura Adler et toutes les personnes qui ont fait monter la sauce autour de Perriand, est assez ambigu, parce qu'on présente Le Corbusier comme un personnage dur, ce qu'il était dans ses rapports humains, mais qu'il ne connaissait rien on peut dire, à ce qu'était une cuisine, aux choses pratiques, donc c'était un théoricien pur, dur, rigide, et Charlotte de Perriand, elle lui a apporté cet art de vivre, comment on fait la cuisine, elle a adouci ses formes, c'est textuellement dit. Alors, c'est un peu paradoxal, parce que c'est justement renvoyer les femmes à la cuisine, et les femmes qui ne feraient qu'adoucir les angles durs des hommes. Donc, ce n'est pas reconnaître les femmes dans leur égalité. Et je dois dire que c'est une imbécilité absolue. Bien évidemment, les femmes architectes sont comme les hommes. Il y en a qui font des architectures dures, d'autres un peu plus près des gens, et les hommes aussi. Et il n'y a aucune différence. Quand vous voyez un bâtiment, vous ne pouvez pas dire c'est une architecte ou un architecte qui l'a fait. Dans le cas de Le Corbusier, c'est très insultant, parce que justement, Le Corbusier n'avait pas besoin de Charles de Perriand pour faire des formes adoucies, arrondies, justement dans les logements. Et quand on dit qu'il ne savait même pas faire bouillir de l'eau, donc il ne savait même pas ce que c'était une cuisine, c'est totalement faux. Parce que justement, le génie de Le Corbusier, c'est cet intérêt qu'il avait dans la vie des gens. Et c'était une rupture importante dans l'architecture. Il n'est pas le seul à l'avoir fait dans le mouvement moderne, mais le mouvement moderne se caractérise par cela, justement, c'est d'être, on peut dire, populaire, d'être social, d'avoir le souci des gens. Et évidemment, on est rentré dans une autre ère où l'architecte n'est pas quelqu'un qui fait des hôtels particuliers pour des gens riches, avec des cuisines qui sont comme dans l'aristocratie, réservées à une main-d'œuvre lointaine de domestiques, où on ne fait qu'uniquement que des pièces d'apparat. Donc on est dans un autre monde. Bon, on va marquer une pause musicale et on va reprendre ce propos. Thank you. Alors bien sûr, je suis désolé de rompre une histoire qui était apparemment jolie. Effectivement, il y avait à la fois d'un côté le méchant architecte qui s'appelle Le Corbusier, qui a choisi ce pseudonyme qu'on appelle familièrement Corbu, Corbu, Corbeau. Et puis de l'autre côté, on a Charlotte. Alors évidemment, on ne dit pas Charlotte de Perriand, on dit Charlotte. Bon, ça rappelle Charlotte aux fraises, l'héroïne des séries Enfantine, et puis sa fille s'appelle Pernette, on l'appelle Pernette. Et donc, on a Charlotte et Pernette, et on est effectivement dans une jolie histoire enfantine. Et puis là, je viens vous casser le rêve et vous dire, bon, je pense que c'est quand même une grosse opération de manipulation. Alors, je viens de parler de la manière dont le Corbusier était renvoyé à une figure qui n'était pas la sienne. Mais ceci dit, Le Corbusier n'était pas une personne sympathique. Mais c'est pas ça le problème. C'est que il vaut mieux avoir un architecte antipathique et brutal, mais qui fasse des bâtiments qui soient agréables à vivre, et c'est le cas pour Le Corbusier, que d'avoir quelqu'un qui est très sympathique, qui fait des bâtiments qui sont invivables pour les gens. Donc l'histoire, elle tranche sur les œuvres. Donc on a un peu rien à faire de la manière dont les gens se comportaient en public, puisque pour les artistes, ce qui nous reste, ce sont les œuvres. Alors, dans le cas de Charles de Perriand, on est, et ça c'est quelque chose qui me choque énormément, on est dans une reconstitution fictive, et même on n'a pas de limite dans cela. Alors, je vous disais, il y a une grande part de mensonges, mais et notamment fait par la famille. Alors c'est vrai que Charles de Perriand, elle a eu une vie longue, elle est morte à 96 ans, et bon, la vieille dame, sur la fin de sa vie, elle avait quand même un peu tendance à se reconstituer à son avantage. Bon, c'est le cas, je crois, de la plupart des gens. On se refait l'histoire en se donnant le bourreau. On ne peut pas lui en vouloir pour cela. Entendu qu'elle n'était pas excessive non plus, mais bon, elle avait tendance à un peu ramener, à se revivre la vie d'une manière, on peut dire, positive pour elle, et puis on arrive à y croire, en fin de compte. C'est un peu plus grave pour la famille, parce que la famille, elle a les documents. Il y a donc la fille et le gendre. Et d'ailleurs, ils sont assez honnêtes, parce qu'ils reconnaissent qu'ils vivent, et apparemment bien, des royalties données par les meubles. C'était mon émission de la dernière fois, par les mobiliers qui sont édités mondialement par Casila. Et je vous ai expliqué tout l'intérêt de l'histoire, c'était la pérennité des droits d'auteur qui allait, en les attribuant à Perian, rajouter une période d'une trentaine d'années de plus par rapport à Le Corbusier qui allait assurer un confort de vie à différentes personnes, mais aussi à la société Casila et aussi à la fondation Le Corbusier. Bon, ça c'était pour la partie, on peut dire, un peu sordide. Mais ce qui est quand même grave dans nos sociétés d'aujourd'hui, c'est qu'on arrive par des moyens, bon, je parlais de France Culture, il y a la Fondation Vuitton, il y a eu des conférences, il y a eu repris par toute la presse les mêmes propos, c'est-à-dire ceux qui sont fabriqués par la famille, qui sont repris par les journalistes, et personne ne vérifie. Et personne ne dit, mais est-ce qu'on ne va pas un peu fort? Est-ce que vraiment cette dame a eu cette figure mondiale de inventer l'art de vivre? Alors effectivement, si c'est très facile avec Internet, vous vous rendez compte que la cuisine moderne, elle date de 1900, et même un peu avant, aux États-Unis. Donc il y a une femme d'ailleurs qui a créé la première, c'est la Frankfurt Kitchen, et qui a fait, bon, on peut dire, les bases de ce qu'est la cuisine moderne, qui est faite par éléments que l'on peut ajouter et développer, et un plat moderne il y a le plan de travail, la cuisine n'est plus une pièce séparée des pièces à vivre avec des domestiques, mais il y a une relation directe avec les modes de vie qui ont changé. Bon, or tout ça, ça se passe quand même 30 ans avant. La révolution, on est loin d'avoir lieu. Mais je vais prendre aussi un exemple de ce qui était raconté dans un enregistrement sur France Culture un historien, il y a aussi un dessinateur qui a fait la vie de Charles de Perriand à Mort de Lucinée. Le filon est exploité, on peut dire, grandement. Et là, on raconte tout uniment que Charles de Perriand était ami de Fernand Léger, était ami de Malraux, était ami de Picasso, et que elle et Picasso, en fin de compte, n'étaient pas connus à l'époque. Picasso, c'était un peintre inconnu et qui faisait la fête en même temps. Alors, il y a un petit problème, c'est que Charlotte Perriand a 26 ans et Picasso, il a 48 ans. En 1928, Picasso est mondialement connu. Alors je pense qu'elle l'a connu parce qu'il était avec Dora Maar, mais c'est une époque très prolifique. Mais Picasso, on peut dire, est déjà au fait de sa gloire. Et Charlotte de Perriand, elle est une employée de Le Corbusier. Alors que le fait que d'être avec Le Corbusier, qui fait partie de ces avant-gardes de la modernité, lui a aidé à rencontrer tous ces gens-là. Enfin, il faut arrêter. Je crois que là, on est en train d'élire, en total délire. Il y a une génération de différence. Donc, personne ne vérifie et on peut effectivement reconstruire totalement une histoire. Alors après, elle a été géniale, écologiste, et on n'en finit plus de lui donner ce rôle de révolutionnaire, mais qu'elle n'est pas, puisqu'en fait, tout avait été fait avant. Alors, je vous ai parlé du Bauhaus qui était 10 ans avant, les meubles du Bauhaus qui étaient déjà tubulaires, industrialisés, d'une longueur d'avance par rapport à ce qui a été produit par Le Corbusier. Mais il faut remettre dans un contexte mondial. Le mouvement moderne avait déjà démarré depuis longtemps. Et aux États-Unis, en Europe, en Hollande, en Allemagne, il y avait des écoles, il y avait des créateurs, il y avait du mobilier, il y avait des objets. Et quand Perriand arrive en 1928, à 24 ans, elle sort de l'école des arts décoratifs. On dit, regardez comme elle a été maltraitée par ce grand macho de Le Corbusier parce qu'il lui a dit, ici, on ne va pas faire de la broderie de coussin. Je suis désolé, mais l'école des arts décoratifs, qu'aujourd'hui on parle, l'école des arts décoratifs, c'était ça. C'était des rideaux, des passementeries. À l'époque, c'était le métier de décorateur. Voilà. C'est le métier de décorateur. Alors, on dit, elle est architecte, elle est urbaniste, elle est designer, designeuse, même dit France Culture. Mais l'urbanisme, c'est quand même notre métier. C'est un métier complexe. Il n'y a apparemment aucun livre, aucun écrit, aucune pensée théorique de Charles de Perriand. Et au niveau architecture, elle a construit un petit chalet à Méribel qui, excusez-moi du peu, est devenu monument historique. C'est d'une banalité totale. C'est pas ni moche ni bien, mais enfin, c'est un chalet en bois et en pierre totalement banal. Alors, bon, tout ça est quand même un peu énorme et on voit qu'il y a quand même tout un mouvement dont les finalités, je vous ai les expliquées, mais on comprend mal qu'en fait, dans le monde d'aujourd'hui, avec les moyens que l'on a d'information, que les journalistes, personne n'ait pris la peine de vérifier que les dates ne correspondent pas, qu'on est 20 ans après ou 30 ans après, qu'en fin de compte, tout cela existe et qu'on ne peut pas parler de quelqu'un qui révolutionne l'art de vivre mondialement et qui est qu'une gentille étudiante seulement. Alors, il y a un aspect aussi de la vie de Charles de Perriand. On dit, alors dans les citations, que Le Corbusier avait été brutal avec elle. Il avait accusé de ne pas faire des avances à son cousin. C'est un peu surprenant parce que quand on voit les photos et les photos qui sont reproduites notamment dans le livre de Laura Dern, on voit un regard enamouré entre cette très jolie jeune femme qui est Charles de Perriand et Le Corbusier, qui est un homme de 40 ans. Alors il est marié, mais contrairement à certaines versions de l'histoire, il n'est pas très heureux avec sa femme, et sa femme n'est pas, c'est pas un homme qui trompe sa femme, sa pauvre femme, qui est gentille chez lui, paraît-il, par d'autres récits et par ses biographes ou les gens qui l'ont connu, que sa femme était quelqu'un de très autoritaire et compliqué, qu'il a gardé toute sa vie et qui était surtout alcoolique. Le Corbusier n'a jamais voulu avouer qu'elle était alcoolique et elle est morte d'ailleurs de cet alcoolisme. Alors, ces histoires sont des histoires effectivement intimes et compliquées. Je suis évidemment à peu près sûr qu'il y a eu une relation amoureuse entre Le Corbusier et je ne suis pas le seul à penser ça. Je dirais les photos sont assez éloquentes. Et le cousin Jeanneret, le cousin Jeanneret était homosexuel, donc il est probable qu'il y ait eu, contrairement à ce que dit la famille, ou dit, pour ne pas dire évidemment que c'était Le Corbusier qui avait été son amant, on dit que son amant était le cousin, et c'était plus facile parce qu'effectivement, ça aurait un peu troublé l'histoire. Personnellement, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait secondaire dans cela. Mais c'est curieux comment l'histoire a pu être ainsi manipulée. Alors, comme je vous disais, c'est au détriment de Le Corbusier, effectivement, comme je vous ai cité, le texte de France Culture, qui lui, franchement, dit que le Corbusier a été un voleur. Mais il y a aussi d'autres personnes, et notamment quand on lui attribue un rôle d'urbaniste et d'architecte dans la station des Arcs, attendu que bon, elle s'est occupée du mobilier et de la cuisine, bon, des studios, des immeubles de la station. Et là, c'est un peu embêtant parce que c'est au détriment des architectes de la station, qui était une agence spécialisée qui est dans l'architecture de montagne, qui est quelque chose de très complexe, je vous l'ai déjà dit. Et effectivement, d'attribuer la conception d'une station à Charlotte Perriand, bah, c'est quand même un peu énorme. Alors, je vais vous dire mon sentiment. Quand on vous dit que ces meubles sont extraordinaires, font l'objet d'une admiration, moi, je trouve ça assez confondant parce que le mobilier, signe LEC, sont des œuvres intemporelles, et les œuvres de Charles de Perriand, notamment sa fameuse bibliothèque nuages, ce sont des planches sur les boîtes qui n'ont aucune qualité d'industrialisation. C'est pas du tout même Ikea qui a fait qu'on pouvait plier et démonter et transporter dans sa voiture. Il n'y a pas vraiment d'innovation. Ce sont des choses assez lourdes avec évidemment quelques compositions. À mon sens, le mot bibliothèque est un mot même un peu usurpé, puisque je crois qu'il s'agit, pour moi, il s'agit que d'étagères. Et ça n'a, pour moi, pas grande valeur. Et c'est à peu près tout ce que tout le monde faisait à cette époque-là. Donc, ça fait partie des mystères. Et quand on voit ces tabourets qui se vendent aujourd'hui des sommes astronomiques, des plusieurs milliers de francs pour des tabourets de ferme, ou des chaises en paille qui sont des chaises en paille que l'on trouve aussi pareil, des chaises d'église ou des chaises en paille qui sont signées Charlotte Perriand, là on est sur quelque chose qui est beaucoup plus du fétichisme que de l'art et de l'histoire de l'art. Voilà, bon, c'était. Je suis désolé si je vous ai cassé le mythe, mais il me semble que ce qui est important avant tout, c'est le respect de la vérité et de la vérité historique. Je vous souhaite une bonne semaine.